Chapitre 31. Une tempête d'eau. Alors que la bataille faisait rage entre ses forces et les Chariens, Egwene regardait de l'autre côté du fleuve. Revenue dans son camp, du côté Arafel du Gué, elle brûlait d'envie de se joindre à la bataille. Mais avant, elle devait parler avec Brynn de ce qui s'était passé du côté des collines. Hélas, elle avait trouvé le poste de commandement désert. Dans le camp, des Aes Sedai, des archers et des piquiers, les survivants en tout cas, continuaient à émerger des portails ouverts au sommet des collines, au sud. Très affairées, les sœurs conversaient entre elles sur un ton alarmé. Toutes semblaient épuisées, mais au coup d'œil fréquent qu'elles jetaient sur la bataille, de l'autre côté du fleuve, elles étaient aussi pressées qu'Egwene d'aller en découdre contre les ténèbres. La chère Dame Myrline fit signe d'approcher aux messagers qui attendaient devant le poste de commandement.
Va dire aux sœurs qu'elles auront moins d'une heure pour récupérer. Maintenant que nous avons abandonné les collines, les Trollocs qui nous combattaient ne tarderont pas à débouler ici.
Egwene allait faire avancer les Aes Sedai en aval du fleuve, afin qu'elle puisse attaquer les Trollocs qui se regroupaient pour prendre à revers ses soldats.
Dis aux archers qu'ils viendront avec nous,
ajouta-t-elle.
Autant qu'ils utilisent leurs dernières flèches, avant qu'on puisse les réapprovisionner.
Alors que le messager s'éloignait, Egwene se tourna vers Leilwyn, qui se tenait non loin de là avec Bael Domon, son cher mari.
Leilwyn, on dirait qu'il y a des cavaliers du Seanchan de l'autre côté du fleuve. Tu peux m'en dire plus?
Oui, mère, ce sont bien des Seanchaniens. Tu vois cet homme là-bas?
Leilwyn désigna un type aux tempes rasées qui se tenait près d'un arbre à côté de l'eau. Affublé d'un pantalon rouge, il portait une veste marron qui, bizarrement, aurait très bien pu être un modèle de deux rivières.
Il m'a dit qu'une légion commandée par le lieutenant-général Kirgan est venue du camp des Seanchaniens et qu'elle avait été envoyée par le général Brynn.
Il a ajouté que cette force était accompagnée par le prince des Corbeaux,
précisa Domon.
Matt? Oui, et il a fait plus que les accompagner. Il a commandé un escadron de cavalerie. Celui qui s'est interposé entre les Chariens et notre flanc gauche. Le prince est arrivé juste à temps, parce que nos piquiers étaient en très mauvaise posture.
« Egwene !»
fit Gawain, un bras tendu. Au sud, quelques centaines de pas après le gué, un petit groupe de soldats sortait de l'eau. En sous-vêtements, ils portaient leur épée attachée dans le dos. C'était trop loin pour qu'on en soit sûr, mais un des hommes de tête semblait très familier.
« Ce ne serait pas Uno ?»
demanda Egwene. Elle fit signe qu'on lui amène son cheval, se hissa en selle et partit au galop. Suivie par Gawain et ses gardes, elle rejoignit les soldats, qui reprenaient leur souffle sur la rive. Soudain, un chapelet de jurons retentit.
« Uno, c'est bien toi !»«
Il était fichtrement temps que quelqu'un arrive !»
s'écria Uno, tout en se mettant au garde-à-vous.
« Mère, nous sommes dans la mouise !»«
Je vois, oui. »
fit Egwene entre ses dents serrées.
J'étais sur une colline quand tes forces ont subi une attaque. Nous avons fait de notre mieux, mais il y avait trop de Trollocs. Comment t'en es-tu sorti?
Comment on s'en est sorti, mère? En bougeant nos fichus miches! Quand les types se sont mis à tomber comme des maudites mouches autour de nous, on a fichu le camp, alors qu'un éclair de malheur s'abattait sur nos arrières. Comme des fous, on a couru vers ce maudit fleuve, on s'est déshabillé et on a plongé. Mère, sauf ton respect, on a tous nagé comme si on avait le feu aux fesses!
Son toupet oscillant en rythme, Uno continua ses imprécations. Egwene aurait juré que l'œil peint sur son bandeau devenait de plus en plus rouge. Après avoir inspiré à fond, Uno continua, un ton plus bas.
« Je ne comprends pas, mère. Un idiot de messager est venu nous dire que les Aes Sedai postés sur les collines avaient des problèmes et que nous devions prendre à revers les maudits Trollocs qui les attaquaient. J'ai demandé qui allait se charger de protéger notre flanc gauche près du fleuve et qui, nom de nom, défendrait notre propre flanc de malheur quand on attaquerait les Trollocs. » Le type a dit que le général Brynn avait tout prévu. La réserve de cavalerie nous remplacerait près du fleuve. Et les Ilianiens défendraient nos fichus flancs. Pour être protégés, on l'a été, ça oui. Un maudit escadron. Comme si une mouche pouvait à elle seule faire fuir un faucon de malheur. Les Trollocs nous attendaient. Comme si on les avait prévenus de notre arrivée. Mère, ça ne peut pas être la faute de Garrett Brynn. Un fichu traître buveur de lait et égorgeur de moutons nous a mis dedans. Avec tout le respect que je te dois, mère.
Je ne peux pas croire ça, Uno. Je viens d'apprendre que Brynn a fait venir une unité de la cavalerie du Seanchan. Ses renforts sont peut-être simplement arrivés en retard. Nous en saurons plus quand j'aurai trouvé le général. En attendant, conduis tes hommes au camp, histoire qu'ils se reposent. La lumière sait qu'ils le méritent.
Uno acquiesça, Faisant volter sa monture, Egwene retourna au camp, au grand galop. S'aidant du saangréal de Vora, Egwene tissa de l'air et de l'eau, puis elle mélangea les flux. Du fleuve monta soudain une grande colonne d'eau. Aussitôt, la jeune dirigeante la projeta sur les Trollocs qui se lançaient à l'attaque du flanc gauche de son armée, du côté Candor du cours d'eau. Son cyclone liquide percuta les monstres. Pas assez violemment pour les projeter dans les airs, pour ça elle n'avait plus assez de puissance. Mais il les força quand même à reculer, les mains levées pour se protéger le visage. Derrière la chair d'Amirline et les autres Aes Sedai, les archers décochèrent des volées de flèches qui s'élevèrent dans le ciel, pas en le noircissant comme Egwene aurait aimé, il n'y avait pas assez de projectiles pour ça, mais en fauchant quand même une bonne centaine de monstres chaque fois. Sur le côté, Pilar et deux autres sœurs Marron, toutes très douées pour les tissages de terre, faisaient s'ouvrir le sol sous les pas des Trollocs. À côté, Mirel et un grand groupe de sœurs vertes tissaient des boules de feu qu'elles envoyaient sur des groupes de monstres, la plupart continuant à avancer comme si de rien n'était, jusqu'à ce que les flammes les forcent à s'écrouler. Les Trollocs rugissaient et braillaient, mais ils chargeaient toujours les défenseurs qui se tenaient dos au fleuve. Soudain, plusieurs rangs de cavaliers séanchaniens se détachèrent de la ligne de défense et foncèrent sur les attaquants. La manœuvre fut si vive que les monstres n'eurent pas le temps de lever leurs lances avant d'encaisser la charge. Les premiers rangs tombèrent comme des quilles. Satisfaits, les cavaliers s'écartèrent, firent demi-tour et regagnèrent leur point de départ. Fatigués ou non, là on pouvait parler d'épuisement, Egwene continuait à canaliser. Mais les Trollocs ne cédaient pas. Au contraire, de plus en plus furieux, ils attaquaient les humains avec une étrange frénésie. Au-dessus des bruits du vent et de l'eau, Egwene entendait clairement leurs cris. Les Trollocs enrageaient? Eh bien, ils ne sauraient pas ce qu'était la colère avant d'avoir goûté à celle de la chair d'Amirline. Allant jusqu'aux limites de ses capacités, Egwene se gorgea de pouvoir. Ensuite, elle chauffa son cyclone liquide pour que les monstres aient les yeux, les mains et même le cœur brûlés. Le saangréal de Vora brandit comme une lance, elle aussi cria à s'en casser les cordes vocales. Des heures semblèrent s'écouler, puis, à bout de force, la jeune dirigeante laissa Gawain la convaincre d'aller un moment à l'arrière. Le jeune homme partit chercher leurs chevaux. En attendant, Egwene regarda de l'autre côté du fleuve. Aucun doute là-dessus. Le flanc gauche avait encore perdu du terrain, une trentaine de pas. Même avec le soutien des Aes Sedai, cette bataille n'était pas gagnable. Il était temps qu'Egwene trouve enfin Garrett Bryne. Dès qu'elle fut de retour au camp avec Gawain, la chair d'Amirline sauta de selle, confia son cheval à Leilwyn et l'encouragea à l'utiliser pour transporter les blessés. Ici, on en trouvait beaucoup, qu'on avait aidé à passer le gué pour les conduire en sécurité. Des braves en piteux état, mais sauvés par leurs frères d'armes. Hélas, Egwene n'avait plus assez de force pour guérir, et moins encore pour ouvrir un portail en direction de Tar Valon ou de Mayenne. Et les Aes Sedai qui ne se battaient plus semblaient aller au moins aussi mal qu'elle.
« Egwene !»
souffla Gawain.
« Cavalier en vie. Cavalière, plutôt. On dirait une noble dame du Seanchan. »«
Membre du sang ?»
se demanda Egwene en suivant le regard de son mari. Au moins, il était encore assez fringant pour monter la garde. Les sœurs qui se privaient volontairement d'un champion, elles les comprenaient de moins en moins. La femme qui approchait portait de riches soieries typiques de l'Empire. En les voyant, Egwene eut un haut le cœur. Cette splendeur existait parce que de pauvres damanes étaient contraintes d'obéir au trône de cristal. Oui, cette haute dame appartenait certainement au sang, car une escorte de gardes de la mort veillait sur elle. Il fallait être importante pour...
« Par la lumière !»
s'écria Gawain.
« On dirait que c'est mine !»
Egwene n'en crut pas ses yeux, mais il avait raison. La jeune femme s'arrêta devant la chair d'Amirline.
« Mère !»
dit-elle, avant de s'incliner au milieu de ses protecteurs au visage de marbre.
« Mine, tu vas bien ?»
demanda Egwene.
« Sois prudente, ne lâche pas trop d'informations. »
Mine était-elle prisonnière ? Quand même, elle ne pouvait pas s'être ralliée au Seanchanien.
« Oui, ça va, »
marmonna-t'elle.
« On m'a pomponné, affublé de ses merveilles et offert les mets les plus délicats. Je précise quand même que, dans l'Empire, délicat n'est pas toujours synonyme de goûteux. Tu devrais voir ce qu'il boit avec Egwene. »
« Je les ai vus vivre, »
répondit la jeune dirigeante, glaciale.
« Oui, c'est vrai. Mère, nous avons un problème. »«
De quel genre ?»«
Eh bien, ça dépend de la confiance que tu accordes à Matt. »«
Je me fie à lui quand il s'agit de se mettre dans la mouise ou de dénicher des gargotes et des tripots. Et ça, où qu'il se trouve ?»«
Tu le vois en commandant en chef ?»
Egwene hésita. Une question pas si stupide que ça. Mine jeta un coup d'œil au garde de la mort, qui ne semblait pas décidé à la laisser approcher davantage d'Egwene, puis elle se pencha en avant.
Mère, Matt pense que Bryn conduit ton armée à sa perte. Selon lui, le général est un suppôt des ténèbres.
Gawain éclata de rire. Et Gwen en fut très surprise. Elle aurait cru qu'il s'étranglerait d'indignation.
Gareth Bryn,
fit-il.
Un suppôt. Avant lui, je soupçonnerais plutôt ma propre mère. Conseille à Cotton de ne pas forcer sur les alcools forts de sa royale épouse. À l'évidence, il ne sait plus ce qu'il dit.
Je suis encline à partager l'avis de Gawain,
fit Egwene. Pourtant, comment fermer les yeux sur l'étrange façon dont son armée était dirigée? Elle tirerait ça au clair bientôt.
Matt s'occupe toujours des gens qui n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Il essaie de me protéger. Dis-lui que nous apprécions sa mise en garde.
Mère, il semble certain de son fait. Ce n'est pas une blague. Il veut que tu lui confies le commandement de ton armée.
Mon armée?
Répéta Egwene, glaciale.
C'est ça, oui.
Entre les mains de Matrim Cotton?
Exactement. Je tiens à préciser que l'impératrice l'a nommé à la tête des forces de l'Empire. Désormais, il est le maréchal général Cotton.
L'État Verem.
Egwene secoua la tête.
Matt est un bon tacticien, c'est vrai. Mais lui confier l'armée de la Tour Blanche? Non, c'est hors de question. Et ça dépasse mon autorité. Sur ces affaires, c'est le hall de la tour qui décide. À présent, peux-tu convaincre les braves hommes qui t'entourent que tu ne risqueras rien si tu viens avec moi?
Même si elle rechignait à l'admettre, Egwene avait besoin des Séanchaniens. Pour sauver Mine, elle ne prendrait pas le risque de saboter l'Alliance. D'autant plus que la jeune femme ne semblait pas en danger dans l'immédiat. Mais si les Séanchaniens s'avisaient qu'elle avait prêté leur serment à Falm...
Ne t'en fais pas pour moi,
dit Mine avec une grimace.
Je suis à ma place près de Fortuna. Elle connaît mon petit secret, si tu vois ce que je veux dire. Un grand merci à Matt. Ça me met en position de l'aider, donc de t'être utile.
Une remarque lourde de sens caché. Trop stoïque pour réagir en entendant Mine prononcer le nom de leur dirigeante, les gardes de la mort se raidirent cependant.
« Sois prudente, Mine, »
pensa Egwene.
« Tu es entourée de buissons d'épineux d'automne. »
Mais la compagne de Rand ne semblait pas s'en soucier.
« Mère, réfléchiras-tu au moins aux propos de Matt ?»«
Sur Gareth Bryn ?»
Vraiment, c'était risible.
« Retourne auprès de Matrim. » Et dis-lui de nous soumettre ses suggestions en matière de tactique, si ça lui chante. Pour l'instant, je dois trouver mes généraux pour décider de la suite.
Gareth Bryn, où es-tu?
Une volée de flèches noires fendit le ciel, presque invisible sur le fond de nuages, puis s'abattit tel un torrent sur les hommes d'Ithurald qui défendaient l'entrée de la vallée de Takandar. Certains projectiles rebondirent contre les boucliers, et d'autres s'enfoncèrent dans la chair. Une flèche se ficha même au pied du général. Ithurald ne broncha pas. Les mains dans le dos, droit comme un i, il marmonna pourtant.
Celle-là est passée vraiment près, pas vrai?
Nommée Bind, la chamane qui se tenait près du général eut un rictus.
Désolé, seigneur.
Bind était censé dévier les flèches. Jusque-là, il s'en était bien sorti. Mais de temps en temps, son regard se voilait et il radotait au sujet des îles qui tentaient de lui voler ses mains.
Reste concentré, fit Ithurald.
Il avait la tête comme un melon. Encore des rêves cette nuit, tellement réels. Il avait vu des Trollocs dévorer vivants des membres de sa famille, alors qu'il était trop faible pour intervenir. Luttant et pleurant tandis que Tamsin et ses enfants hurlaient sous les crocs des monstres, il avait pourtant été troublé par les odeurs de chair humaine brûlée ou bouillie. À la fin du cauchemar, il s'était joint au festin des créatures. « Oublie ça, » se dit-il. Ce n'était pas facile avec un rêve si réaliste. Par bonheur, une attaque des Trollocs l'avait forcé à se réveiller. Le général savait que ça arriverait. Près des barricades, ses hommes avaient allumé des feux. Non sans mal, les Trollocs étaient venus à bout des défenses épineuses, mais la note du boucher devait être salée. À présent, les hommes d'Ithurald se battaient à l'entrée du défilé, empêchant une horde de monstres de déferler dans la vallée. Pendant que les Trollocs avançaient péniblement dans le défilé, les soldats n'avaient pas perdu leur temps. L'entrée de la vallée était à présent défendue par une série de monticules de terre qui arrivaient à hauteur de poitrine d'un homme de taille normale. D'excellentes protections pour les arbalétriers, si les piquiers étaient contraints de reculer trop loin. Désormais, Ithurald avait divisé ses forces par groupe d'environ 3000 hommes. Ensuite, il les avait organisés en formation carrée de piquiers, d'arbalétriers et de soldats du rang. En première ligne, des arbalétriers montés avaient consigne de déclencher des escarmouches. Il avait aussi créé une avant-garde de piquiers de quelques 6 rangées de profondeur. Ces hommes maniaient des piques longues d'au moins 20 pieds. À Maradon, Ithurald avait appris qu'il fallait rester le plus loin possible des Trollocs. Les piques étaient des armes merveilleuses. En formation carrée, les hommes d'Ithurald pouvaient résister dans toutes les directions, même si on les encerclait. Les Trollocs pouvaient être dressés à se battre convenablement. Pourtant, ces carrés, quand on savait s'en servir, étaient en mesure de briser leur ligne d'attaque. Et dès que les Trollocs s'éparpillaient, les Aiel les massacraient avec une intense jubilation. Derrière les piquiers, Ithurald avait fait placer des rangées de halbardiers et de porteurs de machettes. De temps en temps, les Trollocs débordaient les piquiers, en écartant leurs armes ou en les renversant comme des quilles. Les porteurs de machettes se glissaient alors entre les survivants et tranchaient les jarrets des Trollocs de tête. Profitant de ce répit, les piquiers avaient le temps de se regrouper, tandis que la vague suivante de soldats, des fantassins classiques et d'autres piquiers, avançaient pour ferrailler contre les monstres. Jusque-là, tout se passait bien, et une dizaine de carrés affrontaient les monstres sous le ciel nocturne. Sur la défensive, ces formations cherchaient à briser l'élan des Trollocs. Les monstres se jetaient sur les piquiers, tentant de les submerger. Mais chaque carré opérant de manière indépendante, la tâche se révélait difficile. Ithurald se souciait fort peu des Trollocs qui passeraient à travers les mailles du filet. Cela, des Aiel les attendraient. Si Ithurald gardait les mains dans le dos, c'était pour cacher leur tremblement. Depuis Maradon, il n'était plus le même homme. Il avait appris de sa défaite, certes, mais en payant la leçon au prix fort.
« Que la lumière brûle mes maux de tête !» pensa-t-il. « Et qu'elle carbonise les Trollocs !»
Trois fois déjà, il avait failli ordonner à ses hommes d'abandonner les carrés et de se lancer dans un assaut sauvage. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait ses soldats massacrer et démembrer les monstres. Allons, plus de tergiversation. Il avait soif de sang. À chaque occasion, il s'était retenu. Ses hommes n'étaient pas là pour tuer, mais pour tenir. Afin de donner à ce type, dans la grotte, tout le temps dont il avait besoin. C'était le seul enjeu, pas vrai? Pourquoi avait-il tant de mal à s'en souvenir ces derniers jours? Une nouvelle volée de flèches noires s'abattit sur les défenseurs. Malin, les blafards avaient posté des archers sur les versants du défilé, là où Ithurald avait commencé par déployer les siens. Faire monter des monstres là-haut n'avait pas dû être facile avec des pentes si abruptes. Combien de Trollocs avaient basculé dans le vide durant cette escalade? Quoi qu'il en soit, ils étaient là. Et même s'ils tiraient mal à l'arc, ce n'était pas un problème quand on visait des hommes serrés les uns contre les autres dans un espace exigu. Les halbardiers levèrent leurs boucliers. Quand ils les brandissaient, ils devenaient incapables de se battre. En cas de besoin, cependant, ils les gardaient accrochés dans leur dos. Dans l'air nocturne brumeux, l'averse de projectiles se fit de plus en plus dense. Dans le ciel, la tempête se déchaînait, mais les régentes des vents, de nouveau en action, les gardaient à distance. D'après elles, l'armée était passée plusieurs fois à un souffle d'un cyclone de destruction. À un moment, des grêlons gros comme le poing d'un homme s'étaient abattus sur les soldats. Coup de chance, les régentes avaient repris le contrôle du temps assez vite pour que ça dure une ou deux minutes seulement. Si c'était ce qui guettait les défenseurs dès que les régentes ne se servaient plus de leur coupe, Ithurald était le premier à se réjouir qu'elles ne baissent pas les bras. Car le ténébreux se fichait du nombre de Trollocs qu'il tuait lorsqu'il déchaînait sur les humains des catastrophes plus ou moins naturelles.
« Ils se regroupent en vue d'un autre assaut !»
cria quelqu'un dans la nuit. D'autres voix confirmèrent la nouvelle. Avec l'aide de la lumière des feux, Ithurald sonda la brume. Effectivement, les Trollocs se regroupaient.
« Que les 7e et 9e d'infanterie se replient !»
ordonna Ithurald.
« Ces gars sont en première ligne depuis trop longtemps. Le 4e et le 5e doivent monter au front et prendre position sur nos flancs. Préparez-vous à recevoir d'autres volées de flèches et... »
Le général s'interrompit et plissa le front. Que faisait donc cette Trollocs? Après avoir reculé plus loin qu'il s'y attendait, voilà qu'il semblait vouloir battre en retraite. Une marée noire se déversa de la gueule du défilé. Des myrdrals, oui, des centaines et des centaines de blafards, avec leurs manteaux noirs qui ne bougeaient pas, défiant le vent. Des visages sans yeux, des lèvres minces, des lames noires au poing. Reptiliennes, ces créatures se déplaçaient un peu comme des anguilles. Sans laisser le temps au général de donner des ordres, les blafards fondirent sur les carrés de défenseurs, passant entre les piques avec leurs lames mortelles.
« Les Aiel !»
cria Ithurald.
« Qu'on envoie les Aiel ! Tous ! Et tous les gens capables de canaliser, sauf ceux qui protègent la fosse de la perdition ! Vite ! Vite !»
Alors que des messagers partaient au pas de course, Ithurald regarda, horrifié. Une armée de blafards. C'était pire que dans ses cauchemars. Le 7e d'infanterie céda devant ce raz-de-marée, ses formations en carré explosant. Ithurald ouvrit la bouche pour ordonner que la réserve principale, celle qui défendait sa position, se jette dans la mêlée. Il fallait que la cavalerie aille alléger un peu la pression que subissaient les fantassins. Hélas, il n'avait pas beaucoup de cavaliers, car il avait reconnu qu'il serait beaucoup plus utile sur les autres fronts. Mais le peu qu'il lui restait pouvait être déterminant, ici. Sauf que le général ferma les yeux. Par la lumière, il était à bout de force, le cerveau tout embrouillé.
« Replie-toi devant cette attaque, »
dit une voix dans sa tête.
« Va rejoindre les Aiel, puis résiste avec eux. »«
Me replier, » murmura Ithurald. « Replier. »
Une manœuvre qui semblait catastrophique. Alors pourquoi son esprit insistait-il ainsi ?«
Capitaine Tierra, » voulut dire Ithurald, « je te transmets le commandement. »
Les mots refusèrent de sortir. Une force physique semblait l'empêcher d'ouvrir la bouche. Il entendit crier des hommes. Que se passait-il? Face à un seul blafard, des dizaines d'hommes pouvaient succomber. À Maradon, il avait perdu une unité d'archers, 100 hommes exactement, face à Domirdral qui s'était introduit en ville pendant la nuit. Ses escouades de défenseurs étaient formées pour affronter des trollocs, leur couper les jarrets et les jeter à terre. Les blafards massacreraient les carrés et les maraudeurs. Et personne ne faisait ce qu'il aurait fallu faire.
« Seigneur Ithurald ?»
demanda le capitaine Tierra.
« Seigneur, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. »
S'ils se repliaient, les trollocs les encercleraient. Il fallait résister ici. Ithurald ouvrit pourtant la bouche pour donner l'ordre d'abandonner la position.
« Retirez-les !»
Des loups. Des loups venaient d'apparaître dans la brume, semblables à des spectres. En grognant, ils sautaient sur les Myrdral. Ithurald sursauta quand un homme vêtu de fourrure se hissa sur la saillie rocheuse d'où il observait le combat. Tierra recula et appela la garde. L'inconnu en fourrure bondit sur le général et le fit basculer de la saillie. Ithurald ne se débattit pas. Qui que soit cet homme, il lui était reconnaissant, car il l'avait empêché de donner l'ordre du repli. De quoi éprouver une brève sensation de triomphe. Il s'écrasa vite sur le sol, le souffle coupé. Des loups prirent ses bras entre leurs crocs très délicatement et l'entraînèrent vers l'obscurité, tandis qu'il sombrait dans l'inconscience. Alors que la bataille pour la frontière du Kandor continuait, Egwene était assise dans son camp. Son armée contenait les trollocs, et les Séanchaniens la soutenaient. La chère d'Amirlin, elle, dégustait une tasse d'infusion. Quelle situation irritante pour une dirigeante. Mais elle ne tenait plus debout. Gareth Bryne, elle ne l'avait pas encore trouvé, mais ça n'avait rien d'étonnant, puisqu'il se déplaçait sans cesse. Sylvanna le cherchait, et des nouvelles arriveraient bientôt. Alors que des Aes Sedai transféraient les blessés à Mayenne, le soleil sombrait à l'horizon, telle une paupière refusant de rester levée. Sur la tasse, les mains d'Egwen tremblaient. Dans le lointain, on entendait encore le vacarme des armes. À l'évidence, les trollocs comptaient ferrailler tard dans la nuit, histoire de miner les défenses des humains. Des cris de rage ou de douleur montaient toujours du champ de bataille. En revanche, il y avait beaucoup moins d'explosions. Egwene se tourna vers Gawain. Malgré une étrange pâleur, il ne semblait pas fatigué. En sirotant sa boisson, la jeune dirigeante pesta contre son fringant époux. C'était injuste, mais elle n'avait rien à faire de la justice pour le moment. Une Aes Sedai avait le droit de ronchonner au sujet de son champion. Ils étaient là pour ça, après tout. Une brise soufflait dans le camp. Même à des centaines de pas du guet, on y sentait l'odeur du sang. Non loin de là, des archers décochèrent une volée de flèches sur ordre de leur officier. Quelques instants plus tard, deux drakkars s'écrasèrent sur le sol, à la lisière du camp. Avec la nuit, d'autres viendraient, car il leur était plus facile de se cacher. Matt. Dès qu'elle pensait à lui, Egwene se sentait mal à l'aise. C'était un tel fanfaron, et un fêtard qui faisait risette à toutes les jolies filles qu'il croisait. Vraiment, il traitait les femmes comme des potiches. Et c'était Matt, quoi. Quand Egwene avait 13 ans, il s'était jeté dans la rivière pour sauver Kiem Lewin de la noyade. Sauf que la jeune fille n'était pas en train de sombrer, une amie lui ayant juste enfoncé la tête sous l'eau pour s'amuser. Mais Matt n'y avait vu que du feu, prêt à tout pour défendre la veuve et l'orphelin, même quand il ne lui demandait rien. Après cette histoire, les hommes de Champ des Mondes s'étaient moqués de lui pendant des mois. Le printemps suivant, Matt avait tiré Jer Alun de cette même rivière, arrachant le petit garçon à la mort. Après cet exploit, les moqueries avaient cessé pendant un bon moment. C'était tout Matt. Pendant l'hiver, il s'était plaint qu'on se gausse de lui, jurant que la prochaine fois, il laisserait les gens se noyer. Mais dès qu'il avait vu quelqu'un en danger, il avait tout oublié. Et Gwen le revoyait encore, tout dégingandé, sortant de l'eau avec le petit Jer serré contre lui, les yeux encore écarquillés d'horreur. Jer avait sombré sans un cri. À l'époque, Egwen ignorait que ça pouvait arriver. En fait, quand il se noyait, les gens ne se débattaient pas, et ils n'appelaient pas à l'aide. Sidéré, il coulait comme une pierre, et personne ne s'apercevait de rien. Sauf Matt, parce qu'il avait un œil d'aigle.
« Quand j'étais à la pierre de Théar, il est venu à mon secours. »
Certes, mais il avait aussi essayé de la tirer des griffes des Aes Sedai, refusant de croire qu'elle était devenue leur chère dame Irline. Comment analyser les choses cette fois? Egwene était-elle en train de se noyer ou non?
« Eh bien, ça dépend de la confiance que tu accordes à Matt, »
avait dit Mine.
« Par la lumière, j'ai confiance en lui, idiote que je suis !»
Matrim pouvait se tromper, ça lui arrivait même souvent, mais quand il avait raison, il sauvait des vies. Egwene se força à se lever. La voyant chanceler, Gawain vint la soutenir. Après lui avoir tapoté le bras, elle s'écarta de son époux. Les soldats ne devaient pas voir une chair d'Amerline si faible qu'elle avait besoin de s'appuyer à quelqu'un.
« Quel rapport avons-nous sur les autres fronts ?»«
Aujourd'hui, rien du tout, » répondit Gawain. « C'est le silence total. »«
Elaine est censée se battre près de Caerien. Un affrontement important. »«
Elle doit être trop occupée pour envoyer des messages. »«
Gawain, il faut qu'un de nos hommes y aille via un portail. Je dois savoir où en sont les choses. »
Gawain fila exécuter cet ordre. Dès qu'il fut parti, Egwene, à pas prudent, alla rejoindre Sylviana, qui conversait avec deux sœurs bleues.
« Brian ?»
demanda Egwene.
« Dans la tente réfectoire, »
répondit Sylviana.
« Je viens de l'apprendre, et j'ai envoyé un messager lui dire de t'y attendre. Allons-y. »
Une fois sous la tente, la plus grande du camp, Egwene repéra tout de suite le général. Pas en train de se restaurer, mais de consulter des cartes sur la table portative du cuisinier. Le meuble sentait l'oignon, car on avait dû en couper des dizaines et des dizaines dessus. Yukiri avait ouvert un portail dans le sol, afin qu'on puisse observer par en dessus le champ de bataille. Alors qu'Egwene avançait, la sœur le referma. Avec les chariennes aux aguets, prêtes à y expédier des tissages, on ne laissait jamais longtemps ouverte cette fenêtre sur les massacres.
« Convoque le hall de la tour !»
souffla Egwene à Sylviana.
« Rameute toutes les représentantes que tu trouveras. Rendez-vous ici aussi vite que tu pourras !»
Sylviana acquiesça, sans trahir la perplexité qu'elle éprouvait sans doute. Alors qu'elle s'éloignait, Egwene se laissa tomber sur un siège. Sûrement occupée à guérir les blessés, Siouan n'était pas là. Une très bonne chose. Faire ce qui allait suivre sous son regard furibond aurait déplu à Egwene. Restait Gawain, qui aimait Brian comme un père. Via le lien, elle avait senti son inquiétude. Dans cette affaire, Egwene allait devoir se montrer très prudente. Donc, pas question de commencer avant l'arrivée des représentantes. Si elle ne pouvait guère accuser Brian, ignorer Matt n'était pas possible non plus. Il avait tout d'un vaurien et d'un idiot, mais elle lui faisait confiance. Que la lumière lui vienne en aide, mais c'était ainsi. À Matrim Cotton, elle aurait confié sa vie sans sourciller. Et sur le champ de bataille, il s'était vraiment passé des choses bizarres. Les représentantes ne tardèrent pas. Responsables de l'effort de guerre, elles se réunissaient tous les soirs pour entendre les rapports et les explications tactiques de Brian et de ses officiers. Du coup, le général ne s'étonna pas de les voir et continua à travailler. La plupart des sœurs jetèrent un regard interloqué à Egwene. Hochant doctement la tête, elle essaya de les impressionner avec toute la prestance de la chair d'Amirline. Quand elles furent assez nombreuses, la jeune dirigeante décida de se jeter à l'eau. Le temps passait, et elle devait ne plus penser aux accusations de Matt, ou agir en conséquence.
« Général Brian, »
dit-elle,
« tu vas bien? Nous avons eu du mal à te trouver. »
Brian leva les yeux, très rouges, et battit des paupières. Puis il salua les représentantes de la tête.
« Je suis fatigué, mais probablement pas plus que vous toutes. J'étais sur le champ de bataille, attentif aux moindres détails. Tu sais ce que c'est ?»
Gawain entra en trombe.
« Egwene !»
dit-il, toujours aussi pâle.
« Nous avons un problème !»«
Lequel ?»«
Eh bien, le maréchal Bachéré s'est retourné contre Elaine. C'est un suppôt des ténèbres. Sans l'arrivée des Ashaman, la bataille aurait été perdue. »«
Pardon ?»
s'écria Brian.
« Bachéré, un suppôt ?»
Oui,
c'est impossible. Il est aux côtés du dragon depuis des mois. Je ne le connais pas bien, mais un suppôt, non, je n'y crois pas.
C'est effectivement une accusation déraisonnable,
dit Saïrin.
Si tu veux, va donc en parler à la reine,
lâcha Gawain.
Ces mots, je les ai entendus de sa bouche, car je reviens de son camp.
Dans un lourd silence, les représentantes se consultèrent du regard.
Général,
dit Egwene.
Comment se fait-il que tu nous aies envoyé deux escadrons de cavalerie pour nous protéger des Trollocs, quand nous étions sur les collines au sud d'ici? Ces malheureux sont tombés dans un piège, et le flanc gauche de notre armée s'est retrouvé sans défense.
Comment ça se fait, mère?
S'étonna Brian.
Tout le monde avait compris que tes sœurs et toi ne résisteriez plus longtemps. C'est vrai, j'ai dégarni le flanc gauche, mais j'ai envoyé les Ilianiens renforcer cette position. Quand j'ai vu que la cavalerie de Shara se divisait pour attaquer le flanc droit d'Uno, j'ai chargé les Ilianiens d'intercepter les agresseurs. C'était la bonne chose à faire. Comment aurais-je pu savoir qu'il y avait tant de chariens?
Alors que sa voix montait de plusieurs tons, le général se tut, les mains tremblantes.
J'ai fait une erreur, mère. Je ne suis pas parfait.
C'était bien plus qu'une erreur, intervint Faisel. Je viens de parler avec Uno et les autres survivants de ce massacre. Uno affirme avoir senti le piège dès que ses cavaliers et lui se sont dirigés vers les sœurs. Mais il prétend, général, que tu lui avais promis de l'aide.
Je lui ai envoyé des renforts, je viens de le dire. Mais je ne pensais pas que les Chariens mobiliseraient une telle force. De plus, tout était sous mon contrôle. J'avais ordonné à la cavalerie du Seanshan de soutenir nos troupes. Ces cavaliers auraient dû se charger des Chariens. Ils étaient massés de l'autre côté du fleuve et n'auraient jamais dû arriver si tard.
« Oui, »
dit Egwen d'un ton plus dur.
« Nos hommes, par milliers, étaient pris en étau entre les Trollocs et les Chariens, sans espoir de s'enfuir. Tu les as condamnés, général, et sans aucune bonne raison. »
« Il fallait tirer les Aes Sedai de là !»
se défendit Brain.
« Elles sont notre atout le plus précieux !»« Toutes mes excuses, mère, mais tu m'as tenu exactement ce discours !»«
Les sœurs auraient pu attendre !»
dit Saïrine.
« J'étais là-bas. Oui, nous avions besoin de nous replier, mais nous résistions encore. Et nous aurions pu tenir plus longtemps. Général, tu as laissé mourir des milliers de héros. Sais-tu le pire ? Ce n'était pas nécessaire ! Les Seanshaniens postés de l'autre côté du gué, ceux qui auraient dû sauver la situation. Tu les as laissés attendre ton ordre d'attaquer. Mais cet ordre n'est jamais venu. Tu les as abandonnés, comme tu as sacrifié notre cavalerie.
Mais je l'aurais ordonné d'attaquer. Enfin, ils ont fini par bouger. Un messager. Oui, je leur ai envoyé un messager.
Non,
lâcha Egwen.
Sans Matt Cotton, ils seraient encore en train d'attendre de ce côté du fleuve.
Elle se détourna du général.
Egwen,
souffla Gawain en lui prenant le bras.
Que racontes-tu ? Juste parce que...
Brain porta une main à sa tête, puis il vacilla, comme si tous ses membres venaient de perdre leur force.
Je ne sais pas ce qui cloche chez moi,
fit-il d'un ton étrangement creux.
Je multiplie les erreurs, mère. Toutes du genre qu'un homme peut réparer. Voilà ce que je me dis. Mais quand j'essaie, c'est pour commettre une bévue encore pire.
Tu es fatigué, c'est tout,
dit Gawain, compatissant.
Comme nous tous.
Non,
dit Brain.
C'est plus grave que ça. Fatigué, je l'ai déjà été. Là, c'est comme si mon instinct m'abusait systématiquement. Je donne un ordre, puis, tout de suite après, je vois ses défauts.
Une coercition,
dit Egwen, laissant glacer.
On t'a placé sous une coercition. Les ténèbres ont attaqué nos grands capitaines.
Sous la tente, plusieurs sœurs s'unirent à la source.
Comment ça pourrait être possible ?
Objecta Gawain.
Egwen, des sœurs surveillent en permanence le camp pour savoir si des intrus y canalisent le pouvoir.
Je ne sais pas comment c'est arrivé,
admit la chère Damirline.
La coercition était peut-être déjà en place depuis des mois.
Elle se tourna vers les représentantes.
Je propose que le Hall relève Gareth Brain de son commandement. La décision vous revient, représentante.
Lumière,
souffla Yukiri.
C'est lumière.
Il faut le faire,
déclara Doessin.
Le ténébreux a bien joué. C'était un moyen de détruire notre armée sans qu'on le remarque. Nous aurions dû voir le piège. Les grands capitaines, il aurait fallu mieux les protéger. Nous devons prévenir le seigneur Mandragoran et ceux qui combattent au mont Shagulgul,
s'écria Faisel.
Ils pourraient être concernés. Un sabotage de nos quatre fronts en même temps. Je m'en occupe,
dit Saïrin en se dirigeant vers la sortie.
Pour l'heure, je suis d'accord avec notre mère. Brain doit être relevé de son poste.
Tous les autres représentantes approuvèrent du chef. Rien à voir avec un scrutin officiel dans le hall, mais ça ferait l'affaire. Près de la table, Gareth Brain se laissa tomber sur un siège. Pauvre homme. À l'évidence, il était bouleversé. Soudain, il eut un grand sourire.
Général ?
Fit Egwen.
Merci,
dit Brain, l'air très détendu.
De quoi ?
Mère, je craignais d'avoir perdu l'esprit. J'ai laissé mourir des milliers d'hommes, je ne le nie pas. Mais ce n'était pas moi. Non, ce n'était pas moi.
Egwen,
dit Gawain, son chagrin soigneusement caché.
L'armée. Si Brain a été forcé de nous pousser au désastre, nous devons modifier sur le champ notre chaîne de commandement.
Faites venir mes officiers,
dit le général.
Je leur transmettrai mon autorité.
Et s'ils ont été corrompus aussi ?
Avança Doessin.
Le risque est réel,
approuva Egwen.
C'est un coup d'un des rejetés, Mogadien peut-être. Seigneur Brain, si tu étais tombé au combat, l'ennemi savait que tes officiers prendraient la suite. Leur instinct est peut-être aussi faussé que le tien. Qui croire ?
Fit Doessin.
Et à qui se fier ? Tous les gens que nous avons nommés à des postes de commandement peuvent être sous coercition. Nous devons choisir l'une d'entre nous,
dit Faisel.
Influencer un homme incapable de canaliser est bien plus facile que de s'en prendre à une sœur. Nous sentons quand on manie le pouvoir, et nous savons reconnaître les femmes qui ont le don. Statistiquement, nous risquons moins d'être corrompus.
Mais laquelle d'entre nous est calée en stratégie ?
Intervint Ferran.
Je me considère comme assez instruite pour valider un plan, mais pas pour le concevoir.
Ce sera toujours mieux qu'un général sous coercition,
dit Faisel.
Non,
fit Egwene en s'accrochant au bras de Gawain pour se relever.
Mais que faire alors ?
Demanda le jeune homme. Oui, que faire ? Egwene connaissait un seul homme dont elle pouvait garantir qu'il n'était pas sous coercition. En tout cas, pas tissé par Mogadien. Un garçon qui était immunisé contre les effets du Saïdar et du Saïdin.
Matrim Cotton,
dit-elle.
C'est lui que nous devons choisir. Que la lumière nous protège.